Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Congo-Brazzaville, l'organisation ACAT France, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a dénoncé ce mercredi la détention arbitraire à Brazzaville de 4 militants de l'association Incarner l'Espoir et d'un activiste du mouvement citoyen Ras-le-Bol, arrêté entre novembre et décembre par les autorités congolaise. Les quatre militants du mouvement Incarner l'Espoir, soupçonnés de soutenir André Ngombe, dirigeant du mouvement Sassoufi et candidat déclaré à la présidentielle congolaise de 2021, sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Tandis que l'activiste de Ras-le-Bol est accusé, lui, d'incitation au trouble à l'ordre public, souligne le communiqué de l'ONG humanitaire. ACAT France juge ces arrestations sans fondement, mais une source judiciaire congolaise qui a requis l'anonymat a déclaré à l'AFP que les jeunes militants ont réellement commis des infractions et qu'ils seront jugés le moment venu. Conflit au Darfour dans l'ouest du Soudan, plusieurs organisations de défense des droits humains ont exhorté les autorités du Soudan ce mercredi à remettre l'ex-président soudanais Omar al-Béchir à la CPI, la Cour pénale internationale. Et ce, après que Khartoum eut annoncé la veille sa volonté de livrer au tribunal de La Haye le chef de l'État déchu, recherché par la Cour depuis 2009, notamment pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au Darfour. Des accusations rejetées par l'ancien président. Les autorités soudanaises devraient traduire leurs mots en actes et transférer immédiatement Béchir et d'autres individus recherchés par la CPI à La Haye, a déclaré Julie Verhaar, secrétaire générale par intérim d'Amnesty International. L'ONU estime à 300 000 morts et des millions de déplacés le bilan du conflit entre le pouvoir central et des insurgés issus des minorités ethniques qui a éclaté au Darfour en 2003. Pour une réaction au nouveau développement dans ce dossier, Timothée Donagmaya joint Olivier Berco, professeur des droits humains à l'Université de San Francisco en Californie.
Si effectivement l'annonce est suivie des faits, c'est une portée historique très importante, puisque c'est vraiment une progression pour le droit international pénal et ce sera un soulagement énorme pour les victimes qui attendent justice depuis 15 ans. Et la plupart de ces individus, comme al-Béchir, ont été inculpés des crimes les plus graves, notamment du crime de génocide. Et que ça fait plus de 15 ans qu'on attend que ces personnes soient enfin déférées à la Cour pénale internationale et soient jugées. Et donc c'est une avancée historique pour le droit international criminel.
Est-ce que vous voyez quelques obstacles dans la voie de cette procédure?
Oui, parce que le nouveau gouvernement à Khartoum n'est pas complètement installé et ça fait partie des négociations avec les partenaires au Darfour. Pour qu'arrive à une paix définitive au Darfour, c'est une des négociations qui a été mise en avant, c'est que Béchir soit envoyé à la Cour pénale internationale. Mais ça fait partie encore des négociations, donc rien n'est fait, mais je pense que les victimes sont vraiment derrière et attendre que cette décision soit effective.
Quelle est la situation aujourd'hui dans le Darfour?
Une situation qui s'est détériorée ces dernières années, où finalement les personnes qui ont été déplacées ne sont pas retournées dans les villages où elles habitaient, les réfugiés ne sont pas rentrés au Darfour, il y a toujours des violences sporadiques, et l'ancien gouvernement aussi conduisait des actions criminelles de toujours, une situation assez confuse sur place. Donc, je pense qu'il faut un sérieux plan de paix pour qu'on arrive à une paix durable, et qu'enfin les victimes et les déplacés et les réfugiés puissent rentrer chez elles.
Et comment voyez-vous les négociations intersoudanaises de Djouba au Soudan du Sud entre le gouvernement de Khartoum et les rebelles du Darfour?
Là, c'est plus compliqué parce qu'on est dans une situation de guerre civile larvée au sud du Soudan et là, on est dans une incertitude totale en fait. C'est beaucoup plus encourageant au Darfour.
Olivier Berco, professeur des droits humains à l'Université de San Francisco en Californie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Togo, le principal parti d'opposition, l'Alliance nationale pour le changement, ANC, a dénoncé hier l'interdiction ou la perturbation dans le nord du pays de plusieurs meetings de son candidat à la présidentielle du 22 février, Jean-Pierre Fabre. Plus de détails avec Irénée Armand Ungbo.
5 meetings électoraux ont été interdits et perturbés depuis l'ouverture de la campagne électorale le 6 février, ont rapporté les responsables du parti. Dès le lancement de la campagne électorale, Jean-Pierre Fabre, tête de file de l'opposition togolaise et candidat de l'ANC en tournée dans la région des Savanes, de la Kara et Centrale, ne cesse de rencontrer les pires difficultés pour battre campagne comme la loi l'autorise, a indiqué un communiqué publié par sa formation politique. Vendredi, le meeting de Sinkassé a été interdit, les militants de l'ANC ont dû se résoudre à accueillir M. Fabre sous un arbre au bord de la route à l'entrée de la ville. Le même jour, le meeting de Tondjouaré a été interdit. Le meeting prévu samedi à Gando est également interdit par le préfet. Lundi, des personnes se réclamant du parti au pouvoir empêchent la tenue à Bassar du meeting de campagne de l'ANC, précise le communiqué qui dénonce des intimidations des militants sous le regard indifférent des forces de sécurité et de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La campagne prendra fin le 20 février. Environ 10 000 gendarmes et policiers ont été déployés. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, notamment le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien premier ministre Kodjo Agbeyome et le président fort Yassingbe qui briguera un quatrième mandat.
Affaire Isabel dos Santos, la justice portugaise a ordonné le gel des comptes bancaires au Portugal de la milliardaire angolaise Isabel dos Santos, fille de l'ex-président de l'Angola José Eduardo dos Santos. La femme la plus riche d'Afrique est accusée de détournement de fonds publics par les autorités judiciaires de son pays, Abdourahmane Dia.
Selon le parquet portugais, le gel des comptes d'Isabel dos Santos entre dans le cadre de la demande de coopération judiciaire internationale adressée par les autorités angolaises. Elles accusent la milliardaire dirigeante de plusieurs sociétés de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent lorsqu'elle était à la tête du géant pétrolier Sonangol sous la présidence de son père. Après le gel de ses avoirs dans son pays, le procureur général de la République angolaise, Helder Pitagros, s'était rendu fin janvier à Lisbonne pour solliciter l'aide du ministère public portugais. La justice angolaise avait mis la pression sur Lisbonne en précisant qu'elle la soupçonnait d'avoir investi au Portugal des fonds détournés illégalement. Isabel dos Santos avait pris des participations dans plusieurs grandes sociétés portugaises. Depuis l'éclatement du scandale, elle a commencé à vendre ses parts. Elle rejette les accusations portées à son encontre, affirmant qu'elle est la victime d'une chasse aux sorcières.
Guerre civile libyenne, le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter ce mercredi une résolution soutenant un cessez-le-feu en Libye. Résolution qui serait le premier texte contraignant adopté depuis le début du conflit en avril 2019, Bagassi Koura.
Un vote a été demandé par le Royaume-Uni, rédacteur du texte qui a fait l'objet de discussions depuis plus de 3 semaines, indique un diplomate. La position de la Russie, qui avait bloqué le 5 février le projet de résolution, reste inconnue. Le texte affirme la nécessité d'un cessez-le-feu durable en Libye à la première occasion et sans précondition. Dans ce projet soumis au vote ne figure plus la mention de la préoccupation du Conseil de sécurité devant l'implication croissante de mercenaires en Libye. Cette mention avait été à l'origine du blocage russe la semaine dernière, Moscou réclamant de remplacer le mot mercenaire par combattant terroriste étranger. Au début des négociations, les États-Unis avaient réclamé que les mercenaires russes du groupe Wagner soient clairement identifiés dans le texte, selon un diplomate ayant demandé l'anonymat. La Russie est accusée depuis plusieurs mois d'avoir soutenu l'acheminement en Libye de plusieurs milliers de mercenaires de ce groupe privé réputé proche de la présidence russe au profit du maréchal Khalifa Haftar qui cherche depuis début avril à s'emparer militairement de Tripoli.
Course à la présidence américaine côté opposition démocrate, le sénateur socialiste Bernie Sanders a remporté mardi la primaire démocrate du New Hampshire, suivie de près par les candidats modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, désormais installés dans le groupe des aspirants susceptibles d'affronter le président républicain Donald Trump à la présidentielle de novembre. Le point avec Nani Talani.
C'est le début de la fin pour Donald Trump, a lancé le sénateur indépendant, âgé de 78 ans, à ses partisans dans le New Hampshire. Il dévance l'ex-maire Pete Buttigieg, puis la sénatrice modérée du Minnesota, Amy Klobuchar, selon les comptabilisations des chaînes ABC, CBS et NBC. Longtemps favori, l'ancien vice-président Joe Biden a essuyé un cuisant revers en arrivant que loin derrière, à la cinquième place, derrière la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. Joe Biden, dont la candidature semble désormais en péril, a quitté hier le New Hampshire avant les résultats pour se rendre en Caroline du Sud. L'ancien vice-président de Barack Obama y est donné très largement favori car il bénéficie de fort soutien dans la population noire.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.